Bonjour à tous, content de passer ce moment avec vous et de chanter ensemble, de louer notre Dieu. Une première question pour vous donc, ce matin, est-ce que vous avez déjà été insulté, calomnié, traité d'espèce de je ne sais quoi? Si encore ça se limitait aux insultes du capitaine Haddock, Baji Bouzouk, ce serait une chose. Mais souvent, les insultes font bien plus mal, ça touche à notre identité et c'est une vraie souffrance qu'on peut endurer dans la vie, être insulté, être calomnié, qu'on se moque de nous. Nous étudions la première lettre de l'apôtre Pierre et les chrétiens auxquels Pierre écrit sont souvent cibles justement d'insultes et d'outrages dans toute cette épître que nous étudions depuis quelques mois même. Vous avez vu que beaucoup de versets parlent des calomnies, des insultes, des outrages. J'aime bien ce que disait un commentaire. Pour l'instant, ces chrétiens-là, l'opposition aux chrétiens est principalement verbale. Cela n'exclut pas qu'ils allaient connaître, qu'ils pouvaient connaître des persécutions pires, des persécutions physiques. Mais comme souvent, c'est souvent le cas, ça commence avec la calomnie. Donc il y a ces chrétiens qui se convertissaient à Jésus-Christ et se trouvaient vraiment à contre-courant des croyances et des valeurs de l'Empire romain et pouvaient être insultés. Je dirais c'est un peu notre défi aussi. La France est un pays libre et les chrétiens ne sont pas pour le moment persécutés physiquement pour leur foi, en tout cas très exceptionnellement. Mais un des défis, une des souffrances pour nous des fois, c'est le regard bizarre, le regard moqueur de notre entourage. Être chrétien aujourd'hui n'est plus un badge d'honneur dans la société. Nous voyons un décalage grandissant entre les valeurs et les croyances chrétiennes et puis celles du monde. C'est ce que nous disons tout au long de cette série. Nous sommes appelés à vivre à contre-courant, bien souvent. Lorsque nous cherchons à vivre la sainteté, et on a notamment en matière de sexualité, par exemple, nous nous trouvons souvent à contre-courant de ce monde. Lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, en ce qui concerne le couple et le mariage et le célibat, souvent nous nous trouvons à contre-courant de ce monde. Ce qui peut occasionner des insultes ou du mépris ou des souffrances pour nous. Et donc le passage que nous allons étudier ce matin va nous aider à gérer cela. Je vous invite à chercher 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 19. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Nous arrivons à la fin de cette lettre, déjà chapitre 4, il reste un chapitre, un message à faire. Et donc déjà, Pierre commence à conclure. Et ici, Pierre résume beaucoup de choses qu'il avait déjà dites dans cette lettre. Et même, il n'y a pas vraiment de nouvelles informations. Nous avons déjà vu que la souffrance est comme un creuset, comme une fournaise. Nous avons déjà vu que la souffrance précède la gloire et qu'il y a cette espérance éternelle en Christ. Donc, il n'y a pas vraiment de nouvelles informations. J'ai été même tenté de sauter ce passage dans notre série parce que je l'ai trouvé redondant avec chapitre 2 et 3 et 4. Mais, en étudiant, dans ces versets, je trouve que Pierre remet l'accent sur une vérité importante. J'ai même remarqué que Pierre répète la même chose plus ou moins 4 fois, en verset 13, verset 14, verset 16 et verset 19. Donc je relis cette fois-ci en mettant l'accent sur certaines phrases. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Verset 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Verset 16, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte. Et verset 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. Et je pense qu'avant de conclure sa lettre, et après avoir parlé beaucoup des souffrances et de cette vie à contre-courant dans ce monde, Pierre veut être sûr que nous sachions faire la différence entre souffrir pour Christ et souffrir à cause de nos propres bêtises et de nos propres immaturités. Et il veut être sûr que nous vivons à contre-courant pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises raisons. Parce que la tentation est là aussi. Donc ce matin, j'aimerais parler d'avoir des souffrances dont il faut pas vraiment se glorifier, et puis des souffrances dont on peut se réjouir dans ce texte pour nous aider à vivre à contre-courant pour les bonnes raisons. Donc tout d'abord, les souffrances dont il faut pas vraiment se glorifier. On pense à ces premiers chrétiens qui vivaient dans l'Empire romain. Dès l'instant qu'ils croient que Jésus, il est le seul Dieu, il est le Fils de Dieu, ils croient qu'il est le seul Sauveur, et ils croient qu'il est mort et ressuscité pour eux. Là, déjà, avec ces croyances-là, Jésus est le seul Dieu, Jésus est ressuscité, déjà, ils sont en grand décalage avec des croyances romaines qui croyaient à plein de dieux. Et en plus, ces chrétiens, ils ne participent plus à certaines pratiques, certaines activités de la culture romaine, qui étaient souvent liés au culte de leur dieu, mais notamment, on pense, Pierre avait mentionné des orgies idolâtres, cette sexualité débridée, cette violence aussi. Et donc les chrétiens ne participent plus à cause de leur foi en Christ. Et cette non-participation dans la vie, dans la culture romaine, était même très mal vue. Les autres, leurs collègues, leurs voisins, leur famille disaient, mais vous faites plus le bon culte, vous adorez pas les dieux qu'il nous faut pour nous protéger. Donc les chrétiens, comme nous avons vu, ils étaient traités de haïsseurs d'humanité, de l'humanité. C'était déjà un outrage, une insulte. Les chrétiens voulaient aimer le monde, mais ils étaient traités d'haïsseurs, de crimes de haine envers l'humanité parce qu'ils ne participaient plus, ils ne vivaient plus comme les autres. Et on retrouve un peu ça de nos jours, des fois, avoir croire dans la Bible, croire dans les principes de Dieu, suivre Jésus. On peut être traité des gens remplis de haine envers d'autres, des gens intolérants. Donc, c'est pas facile à vivre. Mais Pierre anticipe un danger, une attitude qui peut s'installer, c'est qu'à force de vivre à contre-courant de ce monde, on peut développer une attitude de victime, de martyr, et commencer à blâmer ce monde méchant, alors que des fois c'est simplement notre propre immaturité, nos maladresses, nos bêtises, nos péchés qui inculquent nos souffrances. Et Pierre semble vouloir insister là-dessus. Et donc oui, il dit, ne soyez pas étonnés de la fournaise dans laquelle vous vivez. Il y aura des souffrances. Mais puis en verset 15, il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, criminel, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. C'est mon verset préféré dans ce passage. Pierre, je te trouve limite. Comique ou ironique dans ce verset. Faut-il vraiment dire aux chrétiens que c'est pas bien d'être un meurtrier? Faut-il vraiment dire aux chrétiens que c'est pas bien d'être un voleur? Faut-il dire aux chrétiens que c'est pas bien d'être un criminel? C'est-à-dire, si vous êtes en prison parce que vous avez assassiné quelqu'un, n'attendez pas qu'on va vous canoniser en saint martyr. Mais on s'étonne qu'il parle comme ça. Et puis, la dernière chose dans sa liste, regardez bien ce qu'il dit, que personne d'entre vous souffre comme meurtrier. Est-ce qu'il y a des assassins dans la salle? Ok, non. Comme voleur? Ok, non, c'est pas bien. Comme criminel? Ok, c'est pas bien. Ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui? Ah! Donc il y a des assassins, il y a des voleurs, il y a des criminels, et puis il y a des gens qui sont un peu pénibles. « Et Pierre nous appelle, c'est pas ça, souffrir pour Christ. Déjà, ce verset, je trouve, rappelle une des grandes vérités de la Bible, c'est que c'est pas le cas que les chrétiens sont des gens de bien et les non-chrétiens sont des gens mauvais. C'est pas ça. Les chrétiens sont des gens qui ont reconnu qu'ils sont pas bien. Ils ont pu être ingratiés et pardonnés, y compris des criminels, des voleurs, des assassins. Les chrétiens se reconnaissent en voie de perfection, mais qu'on n'est pas parfait et qu'on lutte avec le péché. Et on reconnaît que des fois, il y a certaines souffrances qui sont de notre faute. Et là, on ne va pas forcément crier au martyr. Être s'ingéré dans les affaires d'autrui, littéralement vouloir contrôler la vie des autres. Et Pierre dit, c'est pas que personne souffre. C'est vrai que quand on fait ça, on va vite se trouver, on va perdre quelques amis peut-être, ou être insulté, outragé, mais Pierre dit, c'est pas ça la souffrance chrétienne. Et je trouve intéressant parce qu'on peut multiplier même les exemples où de chrétiens qui souffrent peut-être pour les mauvaises raisons, ou qui vivent à contre-courant pour les mauvaises raisons. Dans un autre verset, Pierre nous appelle à défendre nos convictions chrétiennes avec douceur et respect. Alors si je parle de Jésus avec agressivité et mépris, et que je suis rejeté, c'est pas trop le moment de dire « Ah, je suis persécuté pour ma foi », vous voyez. Si je dis « Ah, je suis insulté constamment au travail, martyrisé parce que je suis chrétien », mais quand on creuse un peu et que je fais un mauvais travail, ou que je suis toujours en retard, ou que je suis paresseux, ou que je suis insupportable, là encore, c'est pas le martyr pour Christ. Si le contenu de mes réseaux sociaux est choc et provocateur et je poste des choses des fois au nom de Christ, mais que je me rends compte que les gens réagissent mal, peut-être je devrais examiner la méthode et pas plutôt que le message. Et peut-être en France, nous devons faire particulièrement attention. Cet appel à vivre à contre-courant que nous voyons depuis quelques semaines, que l'apôtre Pierre a en tête, voilà, c'est pas juste être un irréductible Gaulois pour être un irréductible Gaulois. Vivre à contre-courant, c'est pas juste résister pour résister, c'est pas juste contester pour contester. On était cette semaine aux Aigues Mortes, la Tour de Constance. Il y a Marie Durand qui a écrit cette fameuse phrase qui est devenue un peu la devise des protestants, résister. Et quand on voit sa résistance, c'était 38 ans dans une prison, en train de soigner d'autres, caché un peu de vue du public, en train de vivre une douceur, supporter des souffrances. C'est ça, résister. Donc, méfiant de nous-mêmes un peu. Il y a des souffrances dont il ne faut pas se réjouir, c'est l'occasion des fois de demander à Dieu de transformer notre caractère, nos caractères qui restent, même en tant que chrétien, des fois un peu pénibles, un peu difficiles, un peu insupportables pour notre entourage, et nous voulons progresser dans ce domaine avant de dire, je souffre vraiment pour Christ. Mais la bonne nouvelle, que là où Pierre veut nous encourager, une fois qu'on écarte ce genre de souffrances-là, il y a des souffrances dont on peut se réjouir. Vous avez vu, comme je l'ai montré, que chaque fois que Pierre parle des souffrances, il le qualifie, c'est-à-dire on souffre pour le nom de Christ, ou on partage les souffrances de Christ, ou on souffre comme chrétien. D'ailleurs, c'est intéressant ce mot chrétien. C'est une des rares fois dans la Bible, qu'il apparaît dans la Bible. En grec, Christianos. Littéralement, ça veut dire quelqu'un qui suit Christ, quelqu'un qui appartient à Christ. Dans le livre des Actes, le titre est souvent donné par ceux de l'extérieur. Il y avait un moment où les gens, c'était les premiers chrétiens à Antioche, mais on les appelait chrétiens. Un peu plus tard, c'était Paul devant un tribunal devant un roi qui n'était pas incrédule, qui l'appelait « Tu vas me persuader de devenir chrétien !» Donc le fait que le titre est toujours utilisé par ceux de l'extérieur, probablement le mot était limite une insulte à cette époque. comme certaines, comme les titres peuvent, souvent les noms et les titres naissent par les adversaires. Nous sommes une église baptiste à l'époque, c'était les anabaptistes, mais c'était plutôt une reproche. Et puis, le titre reste. Et donc, oui, les gens étaient traités d'espèces de chrétiens, les gens qui vous suivez ce Christ. Mais Pierre, il fait exprès, je pense, il cite ce nom, il se l'approprie fièrement. Si quelqu'un souffre comme chrétien, voilà un des insultes et des outrages, eh bien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Pierre se l'approprie et puis vous pouvez aussi. Un chrétien, un christiano, c'est quelqu'un qui suit Christ, quelqu'un qui appartient à Christ, et en cela, c'est une bonne chose. C'est justement ça, être un chrétien, quelqu'un qui appartient à Christ, quelqu'un qui le suit, quelqu'un qui lui ressemble. Alors si notre ressemblance à Christ, si notre sainteté, si notre désir de faire la volonté de Dieu suscite des insultes, Pierre dit oui là, vous pouvez vous réjouir. Alors pourquoi peut-on réjouir de ces souffrances-là pour le nom de Christ? Eh bien, Pierre donne plusieurs raisons. Regardez verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous suivez sa réflexion? Réjouissez-vous maintenant au part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse plus tard. Et selon Pierre, si on arrive à se réjouir maintenant de s'être associé à Christ, d'être traité de chrétien, eh bien notre joie, si on se réjouit maintenant, notre joie va être encore plus grande quand Jésus revient, quand il apparaît en gloire. C'est comme ce temps de patience et d'attente va être récompensé par une joie encore plus grande. Si nous sommes joyeux aujourd'hui, notre joie va être plus grande à l'avenir. Ça, c'est une raison de se réjouir, cette joie future multipliée. Et une autre raison, verset 14, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Là, il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, vous pouvez vous réjouir, vous êtes béni parce que, voici la raison, l'Esprit de gloire repose sur vous. Donc là, ceux qui s'associent à Christ, ceux qui portent les souffrances en son nom, ils ont une promesse de sa présence. La présence, cet esprit, son esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire qui les accompagne, qui les rassure, qui repose sur eux. D'ailleurs, nous avons vu ça avec Étienne, le premier martyr. À un moment, les persécutions sont allées plus loin que la calomnie, il était carrément lapidé, mais à ce moment et dans les instants qui précèdent sa lapidation, il est revêtu du Saint-Esprit, il parle avec assurance, il parle avec pertinence, il peut raconter la vérité et retracer l'histoire du peuple Israël dans l'Ancien Testament. Et puis, au moment où il est lapidé, il rayonne, il brille, et il peut dire même à ceux qui le lapident, pardonne-leur. Donc là, il y a vraiment, et ceux qui étaient autour de lui ont vu que l'Esprit de gloire reposait sur lui. Et c'est souvent le cas lorsque nous arrivons à supporter, à se réjouir de suivre Jésus-Christ. Il y a la promesse de sa présence, de son Saint-Esprit. Et puis en verset 16, encore une raison, c'est une réflexion intéressante. Lisons ce verset 16 maintenant. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Donc, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Là, Pierre s'inspire de l'Ancien Testament. Il rappelle que souvent Dieu purifie son peuple avant de juger les incrédules. D'ailleurs, il avait fait à Babylone, donc Pierre s'inspire de cette histoire où le peuple juif est en exil à Babylone avant de revenir. Et donc Pierre voit les chrétiens dans ce monde comme aussi des exilés, des voyageurs, des étrangers en attente de pouvoir revenir. Et donc le peuple juif a été purifié, châtié en quelque sorte. Dieu a réglé le problème de leur péché, de leur idolâtrie par les Babyloniens, qui étaient un peuple incrédule, méchant. Et donc, il a purifié son peuple, et après quoi, il a jugé les Babyloniens. Sinon, on pourrait accuser Dieu d'un double standard. Il juge les autres, mais pas ses propres enfants, sa propre maison. Mais Dieu, on a déjà dit ce matin, il est juste, il n'y a pas de double standard pour les uns et les autres. Donc, mais Pierre dit, on peut glorifier, on peut souffrir maintenant, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quand il dit c'est le moment, c'est déjà le cas. Il parle du présent, du maintenant. C'est le moment où le jugement commence pour la maison de Dieu. Donc quand il dit ça, je pense qu'il parle de toute la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le moment où le jugement commence pour nous, les chrétiens, pour la maison de Dieu. Et nous apprenons, là encore, que les chrétiens, oui, sont des personnes imparfaites, que Dieu perfectionne et purifie à travers des épreuves et des souffrances. Donc, la manière qu'on va répondre aux insultes et aux outrages, la manière qu'on va vivre cette fournaise ici-bas, c'est une manière de nous perfectionner, de nous changer, de travailler notre patience, travailler notre amour, travailler notre capacité de pardonner, de tout ça pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, pour nous donner davantage de sainteté. Donc Dieu utilise le cadre de ce monde qui est des fois à contre-courant pour nous juger dans le sens qu'il veut nous purifier et nous transformer. Et là, c'est intéressant, c'est important de distinguer entre un jugement purificateur que Dieu déploie envers les chrétiens, et puis un jugement punitif, un peu infernal, éternel. Et c'est la réflexion de Pierre. Si c'est par nous qui commence ce jugement, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Il cite un proverbe, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si je relis dans les proverbes, chapitre 11, voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur? Quand il dit le juste se sauve avec peine, ça ne veut pas dire que c'était que notre salut passe de justesse ou que c'était difficile dans le sens on doit constamment le mettre en doute, mais c'est pour dire que c'était pas juste en claquant les doigts que les chrétiens sont sauvés. Il a fallu la mort de Christ, il a fallu toute cette vie où le jugement commence par la maison de Dieu, toute cette vie où Dieu nous sanctifie, Dieu nous purifie, Dieu nous prépare pour aller au ciel. Il fait ça par son esprit, il fait ça par les circonstances de ce monde, il fait ça par sa parole, il fait ça par l'Église, et tout ça, il nous sanctifie. Tout ça pour éradiquer le péché et le mal. S'il a fait tout ça pour le chrétien, que deviendront le non-chrétien qui ne bénéficie pas de ces choses, sachant que Dieu est juste? C'est la réflexion de Pierre. Et donc, c'est un sujet finalement de joie que les souffrances que nous vivons ici-bas, ces insultes, ces outrages, sont en train de nous préparer pour le ciel, font partie de cette discipline, de cette purification, de cette transformation que Dieu opère dans nos vies. Et donc, Pierre dit, voilà, n'en ayez pas honte, mais plutôt vous pouvez glorifier Dieu à cause de son nom. Donc, vous voyez, ce matin, on a vu qu'il y a des souffrances dont il faut pas trop se glorifier. Éviter peut-être une attitude de martyr ou de victime quand ça n'a pas lieu d'être. Examiner nos propres cœurs. Est-ce que je suis juste une personne un peu pénible sur les bords, des fois? Et Dieu doit encore me travailler. Mais oui, si nous suivons Christ, si nous reflétons sa sainteté, sa bonté, son amour, si nous faisons le bien, et que c'est là qui suscite des souffrances, des insultes, Dieu accorde une bénédiction particulière et elle nous accorde sa joie. Mais peut-être vous dites ce matin, moi, Et justement, je ne suis pas un grand saint, je ne suis pas un grand fidèle, je ne suis pas un martyr pour Christ. Oui, je souffre, mais je vois bien que c'est à cause de mes lacunes, de mes mauvais choix, d'un manque de sagesse, un défaut de personnalité, un péché, une ingérence, oui. Est-ce que Pierre a quelque chose pour moi? Et oui, je rappelle encore ce matin que Jésus est venu pour vous aussi, pour nous aussi, pour nous tous. Lui, il veut bien s'ingérer dans nos affaires. Il est le seul qui a vraiment le droit de l'être. Il est notre créateur et il a le droit de contrôler nos vies. C'est nous qui lui avons dit non, occupe-toi de tes oignons, mais il a le droit de contrôler nos vies. Il est ce roi souverain. Mais la manière qu'il a, au lieu de s'ingérer dans nos affaires d'une mauvaise manière, il nous a abordé avec amour. Il se présente à nous encore ce matin dans sa bonté. Il a été traité de criminel, il a été traité de malfaiteur, il a été traité de brigand pour vous traiter de saint, de juste, c'est merveilleux, de bien-aimé. C'est pour ça que Pierre peut dire à ses chrétiens, certains imparfaits, mais bien-aimés. Et lorsque nous nous attachons à lui, il va nous conduire vers la fin de toute souffrance un jour. En attendant, il reste ce Dieu fidèle. Cet ami fidèle que nous pouvons suivre. Que Dieu nous aide à vivre à contre-courant pour les bonnes raisons. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les fois où c'est notre propre caractère difficile, insupportable, qui a peut-être porté une atteinte à ton nom. Nous avons porté le nom de chrétien, mais nous ne nous sommes pas comportés comme tels. Et nous reconnaissons que l'histoire est aussi remplie d'exemples. Et nous voulons pas contribuer à peut-être une mauvaise image des chrétiens, une hypocrisie que nous pouvons vivre. Nous voulons que tu nous transformes. Nous te remercions pour ceux qui ont avant nous ont porté ce nom de chrétien, ont été outragés, insultés, calomniés, ont subi des souffrances pour ton nom. Nous héritons d'un héritage protestant où les gens ont marché dans la foi, dans l'humilité, dans l'attachement à Jésus-Christ, malgré des fois une grande opposition, une grande persécution. Et ils ont aussi, nous ont légué des principes de foi, mais aussi aujourd'hui une liberté de conscience et de culte pour laquelle nous sommes très reconnaissants. Nous te prions que cela nous aide à te suivre et à aussi être courageux et pouvoir nous glorifier de ce nom de chrétien. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité, qui nous offre une raison de vivre et une réelle espérance qui nous porte à travers les moments difficiles. Nous te remercions que chacun de nous ici puisse suivre Jésus pleinement et joyeusement, fièrement. Nous te prions ces choses en son nom. Amen.